Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Cette semaine, bienvenue en enfer. Nous suivons Gaspard Koenig dans son nouveau roman Une visite de l'enfer. C'est dans un instant. Ensuite, nous lirons un roman culte, bien sûr, dans la même veine, L'enfer de Dante, la Divine Comédie. Nous visiterons la bibliothèque de l'écrivain Yann Kefelek. On va parler Bretagne et papier chinois, vous verrez. Nous irons nous balader dans une librairie, comme toujours, à Vaucresson cette semaine. Et ce grand enfant de Victor Dolande fermera la boutique avec son roman jeunesse. Mais d'abord, donc c'est l'invité, La Voix est libre, c'est parti, premier chapitre. Vous qui entrez, laissez ici toute espérance. Ce n'est pas de moi, c'est de Dante. Dans l'enfer, c'est la phrase gravée sur la porte des enfers, c'est accueillant. Et en lien avec mon invité, bien sûr, il est essayiste, philosophe, romancier, cavalier aussi, on en dira peut-être un mot. Il publie L'enfer aux éditions de l'Observatoire, un roman qui présente sa vision de l'enfer. Je vous raconte, le narrateur est un prof de fac. Était, puisqu'il vient de mourir, il arrive au ciel, littéralement, puisqu'il est dans les nuages, il est un peu perdu dans la brume, et puis il tombe sur un type, genre guichetier au service des cartes grises, on le fait un peu patienter, il se doute qu'on est en train de décider de son sort, enfer ou paradis, mais il n'est pas trop inquiet. Grosso modo, il a eu une vie tranquille, pour ne pas dire terne, mais en tout cas pas de crime ou de délit grave à se reprocher. Le type finit par lui montrer la direction, il y va, il marche, peu stressé, mais ça va. Toujours dans une brume grisâtre, il a faim surtout en fait. Et puis il arrive. Et là, il découvre un aéroport. Très malin là-haut. On part au ciel en avion. Bonjour Gaspard Koenig.
Bonjour.
J'ai raconté le début avec l'air de dire que l'aéroport est l'antichambre du paradis, mais le titre de votre roman nous a trahis, puisque c'est l'enfer. À quoi ressemble cette vision de l'enfer ?
Je pensais qu'il était temps de moderniser un petit peu l'enfer. L'enfer de Dante, l'enfer des mythologies, on le connaît, c'est un enfer où on souffre, on est dans la chaux, on est obligé de manger des excréments, on crie tout le temps. Mais finalement, c'était aussi en réaction à une société où la souffrance était très présente et où le but était de l'éradiquer, ce qu'on est quand même relativement bien parvenu à faire. On vit dans des sociétés maintenant très confortables. Alors à quoi ressemble l'enfer aujourd'hui ? C'était un peu ça ma question. Pour ceux qui croient encore à l'enfer et au paradis, où vont-ils atterrir ? Quand on y pense, d'ailleurs, le paradis, c'est pas facile non plus comme question, parce que imaginez le paradis comme une sorte, comme on le représente souvent, comme une sorte de paradis champêtre.
Dans des grands jardins, en eau blanche.
Des grands jardins, mais ça doit être extrêmement ennuyeux. au bout de quelques jours, alors vous imaginez, pendant des millions d'années, c'est vertigineux. Et alors, l'enfer, à quoi ça ressemble ? Je me suis dit, mais précisément, l'enfer, c'est ce que je me dis à chaque fois que j'y suis, quand je suis dans un aéroport. Je me dis, mais c'est l'enfer, c'est vraiment l'enfer. Alors que pourtant, c'est très confortable, il m'arrive.
Ben oui, c'est chouette.
C'est très douillet, on passe d'un duty free à l'autre, on a des petites boissons, on a des grands fauteuils, tout est bien organisé, il y a des toilettes partout. Si on a le moindre problème, il y a toujours des gens qui viennent s'assurer que nos besoins sont satisfaits. Et pourtant, j'ai quand même le sentiment que c'est l'enfer, parce qu'on est toujours en mouvement, on est toujours dans une foule. On a pour personnalité, pour individualité, singularité, qu'un petit billet avec un numéro. On est toujours en train de bouger d'un coin à l'autre. Vous savez, ces aéroports où vous arrivez, mais vous n'êtes jamais arrivé. Hein, pour prendre un train, vous avez l'impression que vous allez reprendre même un avion pour arriver.
Après, il faut suivre les panneaux avec les portes.
Au vrai aéroport, parce que imaginez que le transport aérien devienne vraiment exponentiel. Qu'il y ait des centaines de milliards d'humains sur la planète qui prennent des millions et des billions et des billions de transports en avion. Mais du coup, les aéroports eux-mêmes grandiraient quasiment à la taille de la planète. Et pour passer d'une partie à l'autre de l'aéroport, on devrait prendre un avion. Mathématiquement, la planète est finie. Donc si le transport devient infini, eh bien, les aéroports couvriront l'ensemble de la surface du globe. Alors, sans doute, la Terre aura-t-elle explosé d'ici là, mais enfin, ça paraît quand même une fiction tout à fait honorable pour l'enfer moderne. Et donc, je me suis dit, imaginons que non seulement on soit dans un aéroport, mais qu'on soit obligé d'y rester, un peu comme dans le film de Spielberg, The Terminal, mais qu'on soit obligé d'en bouger, c'est-à-dire qu'on
reste... On peut prendre l'avion, c'est ça le truc.
On doit prendre l'avion.
On doit même.
On doit prendre l'avion. Et là, j'ai utilisé un artifice assez facile, c'est que je n'ai jamais compris pourquoi dans les aéroports, dès que vous achetez un duty free ou quoi que ce soit, vous devez toujours présenter votre carte d'embarquement. On dit, mais Et pourquoi dire, j'ai déjà présenté 7 fois 8 contrôleurs différents. Pourquoi est-ce que pour acheter un paquet de chewing-gum, je dois encore présenter ma carte d'embarquement ? Je me dis, mais en fait, c'est parce qu'il faut partir quand on est dans l'aéroport. Sinon, on n'a pas le droit de manger. On n'a pas le droit d'acheter un sandwich, oui. Rien du tout. Et donc, mon héros, il a une carte de crédit illimitée.
Oui, alors, bonne nouvelle quand même. Enfin, on est blindé en enfer. Les comptes en banque des damnés sont pleins tout le temps.
Voilà, c'est un peu comme la politique des banques centrales aujourd'hui. On imprime de l'argent, Satan imprime de l'argent toute la journée. Et effectivement, les damnés ont des cartes de crédit illimitées. L'idée, c'est qu'il n'y a aucun désir qui ne puisse pas être immédiatement, je dirais peut-être pas assouvi, mais enfin en tout cas, disons assouvi, mais pas satisfait. Désir sexuel, désir matériel, désir de voyage, désir de tout. Et en fait, on s'arrange tellement pour que les gens aient leur désir satisfait de manière très confortable que pourquoi, au fond, les laisserait-on sortir de l'aéroport ? Parce que là, ils prennent le risque d'une réalité extrêmement décevante. Admettons que vous vouliez faire, quand vous êtes mort, vous dites « Ah ben, je vais enfin faire tout ce que j'ai voulu faire dans ma vie en me disant plus tard, à la retraite, etc. » mais que vous n'avez finalement jamais fait. Et vous partez faire un safari en Afrique pour voir les animaux sauvages. Bien, là, ce qu'on va faire dans cet aéroport extrêmement bien organisé, c'est que plutôt que de vous exposer à la déception d'aller au safari et puis de ne pas voir la panthère et puis d'avoir mal à la cheville et tout ça, on va vous faire un super safari en réalité virtuelle avec un casque sur le visage et des images en 3D.
Et donc, on n'a pas précisé, mais donc on prend l'avion, on arrive dans un autre aéroport, mais ensuite, on ne peut pas sortir de cet aéroport-là. Mais on a le droit de reprendre un avion pour aller ailleurs dans le monde, dans un autre aéroport dont on ne peut pas sortir.
Exactement, et on visite ainsi la planète entière, d'aéroport en aéroport. Encore une fois, on est toujours obligé de prendre l'avion, on ne peut pas s'arrêter. Et d'ailleurs, on ne peut pas s'arrêter de manière générale puisque les damnés s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas dormir. Donc, il n'y a aucun moment où ils peuvent être en pause. Ils reçoivent constamment des millions de sollicitations, publicitaires ou autres, de millions de désirs. Et ça devient une sorte de flux continu dans leur esprit qui leur fait perdre même la sensation du moi, la sensation de l'individualité, parce qu'ils sont complètement dispersés dans les mille désirs qu'ils assouvissent instantanément.
Désirs qui ne s'éteignent jamais.
Qui ne s'éteignent jamais, puisque même quand on fait l'amour, on ne peut pas jouir.
Et alors, notre narrateur, quand il arrive, ses vêtements très vite sont amochés. Il a quand même, il est mort, il est arrivé au ciel, il s'est baladé dans les nuages et tout. C'est pas pratique pour les vêtements. Donc, il s'achète des nouveaux vêtements. Et puis, comme il a un crédit limité, eh ben, il se prend un super beau costard dont il n'avait même pas osé rêver quand il était sur Terre. Le problème, c'est que c'est pas de la super qualité.
Ah, ça peut être de la bonne qualité, mais disons que le principe de la, comment on appelle ça, pas la déliquescence programmée, mais l'obsolescence programmée. Mais d'ailleurs, on pourrait dire la déliquescence programmée dans le cas de l'enfer, ce serait encore plus exact, est poussée à son paroxysme et donc tout disparaît très vite. Et il faut constamment renouveler tout, renouveler sa garde-robe. Vous pouvez tout vous acheter, mais ça ne dure pas plus du temps qu'il faut pour satisfaire votre désir, donc peut-être quelques jours pour un costume, et puis après, voilà, ça s'élimine, il faut encore en acheter un autre, et encore un autre, et encore un autre. Alors, vous pouvez toujours tout acheter, tout utiliser, tout jeter à un rythme effréné.
Mais en fait, c'est une critique de la société de consommation. Il faut consommer sans arrêt, consommer, 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 consommer. J'ai dit que c'était un roman, c'est aussi un conte philosophique. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes aussi philosophe et économiste et libéral. Vous défendez une forme de libéralisme, en tout cas. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans la défense du libéralisme et cette critique de la société de consommation ? Est-ce que l'un n'induit pas l'autre ?
Mais justement, je pense qu'on a trop... alors, sur les trois mots, j'en assume deux, hein, philosophe et libéral, mais économiste, je pense qu'on en a déjà beaucoup trop, donc je ne veux pas me mêler à cette foule. Et je pense qu'on a beaucoup trop réduit le libéralisme, peut-être par réaction, parce qu'il est si mal compris en France, à une microscopique sous-école du libéralisme qui a évidemment pris beaucoup d'importance politiquement et socialement, qui a été le néolibéralisme, qui a été développé, on connaît la trajectoire, Serge Audier a écrit un très beau livre là-dessus, depuis la fin des années 30, jusqu'à évidemment le paroxysme de l'école de Chicago et de Milton Friedman, qu'on retrouvera d'ailleurs dans l'enfer, mais que ce néolibéralisme, c'est quelque chose que Alexis de Tocqueville, par exemple, qui est un peu le père fondateur de cette école de pensée, aurait absolument détesté, parce que c'est l'individu totalement noyé dans la masse, alors en l'occurrence, la masse de la consommation, mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout respectueux de la singularité de chaque être humain. Et je pense que ce livre m'a permis, de manière un peu évidemment moqueuse et peut-être poétique, de rompre très clairement avec cette version du libéralisme, qui est la version gagnante aujourd'hui, qui est la version dominante, qui est quand même contesté sur tous les fronts, et c'est tant mieux, parce que c'est la fin de ce modèle, clairement, à la fois sur le plan théorique et sur le plan politique. Mais je pense que l'idée, c'est justement, au sein même de la très grande famille libérale, de le critiquer et, comme ça avait été le cas à la fin des années 30, de ressurgir avec quelque chose de nouveau et des principes différents sur lesquels on peut persévérer dans l'idée de la liberté, mais l'adapter aux enjeux contemporains.
Restez avec nous, Gaspard Koenig. Dans un instant, nous reprenons la visite de votre enfer, mais on va essayer de faire quand même un petit tour au paradis.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Vous avez reconnu Highway to Hell, l'autoroute vers l'enfer d'AC/DC, c'est de circonstance. De retour dans La Voix est libre, toujours avec Gaspard Koenig, qui publie L'Enfer aux éditions de l'Observatoire. Le narrateur est mort, donc il se retrouve en enfer, qui est en fait un terminal d'aéroport, plusieurs aéroports, parce qu'on peut voyager, mais on atterrit dans un autre aéroport et on est bloqué. On nous interdit de sortir, enfin, c'est pas qu'on nous interdit de sortir, mais on fait tout pour qu'on se sente bien dans l'aéroport et tellement bien qu'on n'ait pas envie d'en sortir. On bouge tout le temps, on consomme tout le temps dans un univers complètement aseptisé. Le sexe aussi est à volonté, Gaspard Koenig. En fait, tous les désirs de nos sociétés modernes sont exacerbés et on peut les assouvir à tout moment. Et vous avez l'air de dire que ces désirs n'ont plus aucun intérêt si on ne les acquiert pas de haute lutte. Ce petit prof de fac qui a une vie tout à fait normale, tout à coup, il accède à des désirs dont il n'avait même pas rêvé.
Oui, mais c'est un peu le paradoxe du désir et de la satisfaction des désirs dans la société, c'est qu'au fond, le jour où tout sera réglé et où on aura enfin accès à tout, ce qui est notre objectif, qui est l'objectif d'ailleurs auquel ce professeur d'économie avait travaillé dans son existence en soutenant des politiques publiques utilitaristes qui allaient en ce sens, eh bien, on sera extrêmement déçu parce qu'on s'apercevra que la satisfaction des désirs, si elle n'est pas liée à une souffrance, si elle n'est pas liée à une recherche personnelle, si elle n'est pas liée à une quête ou à une errance, devient extrêmement, d'abord, ennuyeuse et ensuite, en fait, totalement vaine. Et peu à peu, notre héros se lasse de ses désirs satisfaits et finalement, on n'a aucune envie, enfin, la dernière envie qui pourrait lui rester, c'est de souffrir. Et c'est précisément ce qui lui est interdit. Parce que dans cet univers, vous ne pouvez pas mourir. Vous ne pouvez pas mourir, et ça, c'est un peu le rêve du transhumanisme aujourd'hui. Dès qu'il essaye de se faire mal, il est immédiatement ressuscité, par les meilleures techniques médicales. On lui met des
les
nouveaux
rouges.
Organes. Voilà, les rouges s'occupent de lui.
Les rouges, c'est tout le personnel en fait, qui s'occupe des damnés. Pourquoi les rouges et qui sont-ils? On ne sait pas bien dans le roman.
On ne sait pas bien. Je leur ai mis des chaussures, comme ça on peut imaginer leurs pieds fourchus. Et les rouges sont là pour assouvir tous les désirs des damnés. On ne sait pas bien si ce sont des êtres de chair, c'est un peu évidemment dans un enfer, personne n'est vraiment en chair, ou si ce sont simplement des super algorithmes, des intelligences artificielles sur pattes. Ça pourrait bien être le cas. En tout cas, c'est des gens qui n'ont pas de volition personnelle. Et au fond, c'est ça la pire des dictatures. Et ça, même au fond, Orwell ne l'avait pas imaginé, parce qu'il y a quelque chose de très rassurant en 1984. C'est qu'il y a quand même un chef. Il y a quand même un chef qui décide.
Qu'on ne voit jamais.
On ne voit jamais, mais qui existe. Et donc, on peut s'imaginer qu'un jour, on va, en luttant, on va réussir à combattre ce chef et à détruire l'univers qu'il a créé. Alors que là, le chef, c'est un peu tout le monde.
Eh ben, c'est ce que j'allais dire. Disséminé. Parce que c'est les rouges, on ne se demande pas si c'est aussi des damnés, mais au service des autres damnés. Et il y a un moment, un capot. De ces rouges qui dit, parce que le narrateur dit, mais je veux voir Dieu, moi, je veux sortir d'ici, présentez-moi, voilà, donnez-moi le responsable. Donc Dieu, c'est moi, Dieu, c'est nous tous. Ça, exactement. C'est le rouge qui répond ça. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est-à-dire qu'on est à la fois responsable et...
C'est une très mauvaise nouvelle.
En même temps, on peut
c'est
rien
une très
faire.
Mauvaise nouvelle parce que justement, il n'y a pas un maître suprême qui contrôlerait cet univers de fou et qui permettrait donc d'y mettre fin, même si la probabilité, comme dans Orwell, d'y arriver est très faible. Mais au moins, il y a cet espoir qui existe, on peut lutter. Et là, on ne peut pas lutter puisque le pouvoir est totalement réparti et que chacun, en fait, est son propre bourreau. Et ça, c'est un peu la logique que moi, j'avais trouvée dans mon voyage, dans mon livre précédent sur l'intelligence artificielle, la logique des applications qui vous enferme en vous-même. Il n'y a personne qui vous manipule à proprement parler, mais à force d'utiliser l'algorithme, vous vous manipulez vous-même parce que vous lui donnez des données, il vous répond en retour et vous vous enfermez dans votre propre bulle. Et donc, vous êtes à ce moment-là votre propre bourreau et vous ne pouvez pas dire qu'il faut tel règlement ou qu'il faut que telle personne change d'attitude. C'est vous-même qui vous êtes emprisonné.
C'est le cauchemar de Tocqueville, d'ailleurs.
Et bien
c'est la population qui est son propre despote.
C'est exact. Alors, mais encore, dans Tocqueville, il reste un gouvernement. Et à l'ombre de ce gouvernement, effectivement, les gens obéissent à 1000 règles pointilleuses, mais ils obéissent quand même à une règle. Là, la règle, il n'y a plus de règle dans l'enfer, si ce n'est celle qu'on se forge pour soi-même. Et donc, c'est au fond, c'est peut-être le dernier stade de Tocqueville. C'est que chacun est ce gouvernement. Rousseau disait, vous savez, le gouvernement des dieux, où l'exécutif et le législatif sont confondus, mais là, c'est le gouvernement des diables, où ils sont confondus pour le pire.
À un moment, le narrateur demande à quelqu'un « Vous êtes là depuis longtemps ?» Et on lui répond « Longtemps, ça c'est vraiment du vocabulaire de mortel. Vous vouliez vous payer un vertige d'une réflexion sur l'éternité ?» C'est vrai que c'est, quand on lit cette phrase, on comprend bien, si on est là depuis un million d'années, effectivement, longtemps, c'est relatif. Mais il y en a encore pour même pas des millions d'années. On ne peut pas le calculer puisque c'est l'éternité, c'est vertigineux.
C'est amusant d'imaginer la vie quotidienne à l'aune de l'éternité. Et en fait, en retour, on s'aperçoit... je me suis plié à cet exercice parce que j'ai écrit pendant plusieurs mois ce roman à la première personne. C'est un narrateur d'ailleurs dont on ne connaîtra jamais le nom. Et donc, je me suis un peu plongé dans l'identité d'un immortel. Et j'ai vu que, par contraste, toute notre vie, tous les plaisirs de notre vie sont liés au fait qu'on est mortel. Et que quand on est immortel, en fait, l'essence même de ce qui nous fait aujourd'hui exister, persévérer dans l'être, disparaît. Je trouve que l'exemple le plus frappant de ça pour moi, enfin en tout cas ça a été le plus douloureux à écrire, c'est quand le narrateur voit son fils.
Ah oui.
Et
je sais pas s'il faut raconter.
Bah quand même, parce que...
Il a le même âge que lui en fait.
Bah c'est forcément.
Parce qu'ils se croisent un jour par hasard
si
dans
l'aéroport. Si vous avez chacun un million d'années, voilà. Qu'est-ce que c'est que 30 ans de différence ? Et là on se dit, mais c'est d'une cruauté folle en fait, que le temps ne passe plus. Parce qu'il n'y a même plus de différence entre les générations. Et donc, au fond, la seule chose qu'on a envie de vouloir, si on peut encore vouloir, si la volonté n'a pas été totalement détruite, c'est de vouloir le néant ou de vouloir le sommeil. C'est évidemment un univers où on ne peut pas dormir non plus.
Alors, on ne va pas dire comment, hein, mais on y fait un tour au paradis. On le visite quand même, heureusement, un peu. Ça ressemble à quoi ?
Le paradis, c'est un endroit où l'on souffre et où l'on est seul. Deux choses qu'on ne peut absolument pas faire dans un aéroport. Il y a toujours des gens qui tournent autour de nous.
C'est vraiment un paradis d'écrivains, ça.
Ben oui, mais je pense que quand vous aurez fait 150 pages dans l'enfer, vous serez assez content d'avoir une sorte de petite cellule battue par les vents. En l'occurrence, pour moi, une sorte de fjord, peut-être un fjord écossais ou un fjord scandinave. Où du coup, on a le temps de laisser passer le temps et de souffrir aussi du temps qui passe.
Est-ce que le paradis, ce n'est pas une grande balade à cheval aussi ? Vous nous dites un mot de ce qui sera votre prochain livre dans quelques mois, je crois ?
Bah, en effet, c'est un diptyque, puisque là, je vous livre l'enfer, mais maintenant, j'écris le paradis. Et le paradis, ça sera le récit de ma toujours aux éditions de l'Observatoire, de ma grande promenade, cavalcade... à cheval, à travers l'Europe, sur les traces de Montaigne, dont j'ai reproduit l'itinéraire de 1580, de Bordeaux à Rome. Moi, je suis parti alors vraiment entre deux vagues épidémiques, puisque je suis parti mi-juin cette année, et je suis arrivé début novembre à Rome, en passant par toute la diagonale du vide, par l'est de la France, puis par l'Allemagne, l'Italie du Nord, tout ça sur une jument espagnole. Vous voyez que c'est un voyage très cosmopolite qui s'appelle Destinada, qui est aujourd'hui auprès en Normandie, qui va très bien, et que je rejoins quand je peux.
Mais sur les petits chemins de campagne, pas sur l'autoroute, j'imagine.
Et ben, c'est ça qui était intéressant, c'est qu'on ne peut pas toujours prendre des chemins de campagne. Il y a d'ailleurs un rapport à la propriété privée qui est très différent dans les trois pays, France, Allemagne et Italie. La France, la propriété privée est vraiment sacrée. Alors, en Allemagne, au contraire, vous avez un droit de passage sur l'ensemble des propriétés, donc c'est beaucoup plus facile de prendre des chemins. Et donc, on découvre quand même des choses assez profondes dans les territoires, des différences culturelles très profondes. Mais je suis passé, alors pas par les quatre voies, mais enfin par les grosses nationales, par le centre des villes, par les banlieues. Et l'idée, c'était pas de suivre les chemins noirs, c'était au contraire d'aller au contact de la modernité, mais avec un moyen de transport qui la réveille un peu et qui crée des situations étrange et qui force quelque part les gens à réveiller leur vieux sens de l'hospitalité.
Ça, oui, c'est... parce qu'il n'y a plus d'abreuvoir et plus d'avoine dans les hôtels. On en reparlera quand vous le publierez. Vous restez avec nous, Gaspard Koenig. Je rappelle le titre de votre roman, c'est L'Enfer, aux éditions de l'Observatoire. Et dans un instant, c'est le roman culte, et c'est un autre enfer, celui de Dante. À tout de suite.
La Voix est livre. Nicolas Caro.
Retour dans La Voix est libre, toujours avec Gaspard Koenig et son nouveau roman L'Enfer, aux éditions de l'Observatoire. Il est l'heure du livre culte et je vous propose, pour rester dans le thème, La Divine Comédie de Dante, Dante Alighieri, divisé en trois parties. L'Enfer, le Purgatoire, le Paradis. C'est un long poème, en fait, qui se découpe en chants, chant 1, chant 2, etc. Ça date du début du XIVe siècle, quand même. Alors, c'est un chef-d'œuvre littéraire, d'abord. C'est beau, c'est sublime, même. Est terrifiant parfois, particulièrement dans la partie enfer, mais c'est aussi une œuvre politique. Dante en profite pour régler ses comptes avec ses contemporains florentins. C'est Dante qui raconte, mais son guide, c'est un autre poète, Virgile, qui lui propose de lui faire visiter. Voici donc la première page, le premier chant, lu, et c'est pas facile, par Philippe Dussault.
Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais par une forêt obscure, car la voie droite était perdue. Dire ce qu'elle était est chose dure, cette forêt féroce, et âpre et forte, qui ranime la peur dans la pensée. Elle est si amère que mort l'est à peine plus, mais pour parler du bien que j'y trouvais, je dirais des autres choses que j'y ai vues. Je ne sais pas bien redire comment j'y entrais, tant j'étais plein de sommeil en ce point où j'abandonnais la voie vraie. Mais quand je fus venu au pied d'une colline où finissait cette vallée qui m'avait pénétré le cœur de peur, je regardai en haut et je vis ses épaules vêtues déjà par les rayons de la planète qui mènent chacun droit par tout sentier. Alors la peur se tint un peu tranquille qui dans le lac du cœur m'avait duré la nuit que je passais si plein de peine. Et comme celui qui, hors d'haleine, sorti de la mer au rivage, se retourne vers l'eau périlleuse et regarde, ainsi mon âme, qui fuyait encore, se retourna pour regarder le pas qui ne laissa jamais personne en vie. Quand j'eus un peu reposé le corps là, je repris mon chemin sur la plage déserte, et le pied ferme était toujours plus bas que l'autre. Mais voici, presque au début de la montée, une panthère légère et très agile que recouvrait un pelage moucheté. Elle ne bougeait pas de devant mon visage et même elle empêchait tellement mon chemin que plusieurs fois, je me tournais pour m'en aller.
C'était la première page de L'Enfer de Dante, lu par le comédien Philippe Dussault, qui a mérité sa place au paradis. Merci à lui. À suivre, visite de bibliothèque, rendez-vous chez Yann Kefelec. C'est tout de suite maintenant.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre.
La Voix est libre continue, nouvelle page. On sort un peu du studio à la rencontre de Yann Kefelec. Il publie La Mer et au-delà chez Calman Lévy, La Mer M.E.R., une biographie romancée de Florence Artaud. Il est souvent venu parler de ses livres à Europe 1, Yann Kefelec, en studio, mais je voulais depuis longtemps visiter sa bibliothèque, notamment parce qu'il m'avait parlé de ses carnets chinois. Allons-y. Bonjour Yann Kefelec.
Bonjour Nicolas Caro.
Je suis content d'être chez vous, enfin, dans votre bibliothèque, parce que pour tout dire aux auditeurs, ça fait 4 fois qu'on essaye de monter ce rendez-vous. Et entre les confinements et les chutes dans les escaliers, hein, Yann Kefelec,
ça n'a pas eu de chance. Effectivement, ça aurait pu être pire.
Bon, je suis content d'être là, et puis je ne suis pas déçu. On est dans votre bureau, on est monté par un petit escalier. Alors, on est à Saint-Mandé, pas très très loin de Paris. Et on est monté par un petit escalier dans votre bureau. Et dans le petit escalier, il y a déjà des livres. Mais là, on est dans le Saint des Saints, c'est-à-dire que c'est là où vous écrivez finalement. C'est votre bureau face à une fenêtre de toit.
Avec une belle vue la nuit sur le ciel étoilé. Donc on voit un morceau d'immeuble ici, mais il disparaît complètement la nuit. Et je peux voir passer la lune dans toutes ses phases. Et je suis très très heureux pour travailler ici.
Oui, comme un poète romantique, quoi. Vous écrivez avec la plume d'oie et la lune dans l'encadrement de la fenêtre, comme ça. C'est
pas tout à fait la plume d'oie, mais j'écris tout de même à la main sur des cahiers chinois fabriqués par des femmes.
Alors c'est important, ça. Tout le monde ne le sait pas, mais vous écrivez sur des cahiers très spéciaux. Ils sont là. Est-ce que vous pouvez nous les décrire et nous dire pourquoi vous écrivez sur cela ?
Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. De toute manière, mon écriture est illisible, donc j'en ai aucun complexe à vous la présenter. Donc, ce sont des cahiers qui ont la particularité de ne pas être tout à... La page n'est pas tout à fait blanche, comme vous le constatez. Uh-huh. Je suis incapable d'écrire sur une feuille blanche. Ils correspondent... La glisse du papier... Le papier est un peu grenu, donc il y a une retenue de mon stylo Mitsubishi à l'encre de sèche sur la page, si bien que mon écriture se complète dans ce type de cahier.
Mais les pages sont un peu transparentes, donc on voit un peu les...
Ça, c'est ce qu'on croit. Mais lorsque... Oui, mais non, là, elles sont transparentes parce qu'elles sont déjà écrites. Mais lorsque j'arrive sur un feuillet vierge, je ne vois rien de travers.
Mais vous écrivez quand même recto verso.
Je prends des notes au verso, j'écris recto et je prends des notes au verso par rapport à ce que j'ai écrit sur le recto.
D'accord, parce qu'il y a une reliure très spéciale. Alors, ils sont très jolis, ces carnets. C'est une reliure très spéciale. Vous faites venir ça d'où ?
Alors, je fais venir ça de Chine, de cette vieille papeterie de femmes uniquement, les berges du fleuve Amour. C'est un cargo chinois rouge qui débarque une fois par an sur les côtes européennes, les côtes françaises notamment. Et c'est ma femme qui va négocier en anglais avec le capitaine l'ouverture d'une caisse de cahiers et l'achat d'un certain nombre de cahiers. Et à chaque fois, c'est un peu spécial parce que visiblement, il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de monde en Europe qui s'intéresse à ces cahiers dont je ne révélerai pas l'adresse, évidemment, parce que je tiens mes petits secrets.
Juste à côté de votre bureau, à droite, il y a un cadre avec une photo. C'est le jury Goncourt. Et c'est l'heure, j'imagine, de la remise de votre prix Goncourt.
En fait, c'est une photo qui montre, à la fin du XXe siècle, tous les prix Goncourt encore vivants. Depuis, un certain nombre de ces prix Goncourt ont disparu, dont Henri Troya, Edmond Charleroux.
Ah, c'est pas le jury, d'accord.
Non, c'est pas le jury. C'était une tablée extraordinairement festive, parfaitement démasquée, avec des choses absolument délicieuses à manger et à boire. Et vraiment, on avait passé un excellent moment. Et à la fin, on s'était tous dédicacé le menu. Donc, vous voyez à moitié effacé sur la page de droite les signatures de ces personnalités du monde de lettres.
Et il est où votre chèque du prix Goncourt ? Je rappelle que le prix Goncourt, c'est très prestigieux, mais on gagne un chèque de 10 euros. À l'époque, ça devait être 50 francs. Et souvent, les auteurs, les lauréats gardent le chèque en souvenir et ils l'encadrent aussi.
Il y en a un qui l'a présenté, qui l'a mis en banque, le chèque. Mais en parlant du chèque du prix Goncourt, vous remuez le stylo dans la plaie parce que, et je fais un appel solennel à vos auditeurs au cas où l'un d'entre eux saurait où se trouve le chèque de mon prix Goncourt. Donc j'ai de bonnes raisons de penser qu'il m'a été dérobé par quelqu'un qui avait envie d'avoir un chèque de prix Goncourt à la maison. Il y est parfaitement parvenu, sauf qu'il est à moi et que c'est le symbole de quelque chose auquel je suis extrêmement attaché. Et j'aimerais bien le retrouver.
Comment il a été volé ?
Il a été volé dans les années, à la fin des années 80, je ne sais pas, 86,
ah, vous l'aviez récupéré,
80.
Ramené chez vous et il est parti.
C'est très beau, vous recevez une lettre très bien écrite des notaires du prix Goncourt, avec un chèque attaché à cette lettre. C'est une lettre chèque. Et bien entendu, je comptais garder ce chèque comme le symbole comme ça, d'un beau moment de mon existence. Et puis un beau jour, cette lettre avait disparu de mon bureau.
Ah, c'est très triste.
Oh, c'est pas si triste que ça. En fait, grand bien face à celui qui me l'a pris. L'important, c'est d'avoir eu le prix Goncourt, d'être là aujourd'hui, de continuer à écrire et d'aimer la vie.
De toute façon, il ne peut pas l'encaisser.
Non, il ne peut pas l'encaisser. Mais en fait, il peut le revendre quand même. Parce qu'à mon avis, il a beaucoup plus de valeur en tant que, avec sa lettre en chèque qu'en tant que valeur pécuniaire.
Alors, les livres, ils sont un peu partout dans la pièce. Il y a des bibliothèques. Il faut dire que c'est mansardé, donc il faut qu'on fasse un peu attention à nos crânes.
Ouais, c'est un peu...
Il y a des poutres, comme dans un bateau, finalement.
Oui, vous êtes un peu dans l'entrepont, ici.
On est bien chez vous. Est-ce qu'il y a un rangement particulier ?
Il y a un faux dérangement, en fait. Ces livres ne sont pas classés, mais lorsqu'il y a une collection, si vous voulez, je m'efforce de ranger ensemble les livres de cette collection. Et lorsqu'il y a collection, généralement, j'ai regardé tous les exemplaires. Pour les livres de poche, j'en suis un petit... Vous voyez, il y a les cahiers rouges de chez Grasset, il y a la bibliothèque.
Ça, c'est joli quand c'est ensemble, quand même.
Oui, c'est joli. En plus, ce sont de très bons titres. Il y a la bibliothèque Cosmopolite Rose de chez Stock. Mm-hmm. Il y a la collection L'Imaginaire de chez Gallimard. Il y a un certain nombre de dictionnaires amoureux également. Et c'est vrai que ce sont d'excellents textes que j'ai pour ainsi dire tous regardés, voire lus intégralement. Pour les livres de poche, c'est beaucoup plus en désordre, mais je m'efforce de jeter un œil à tous les livres qui figurent dans ma bibliothèque et de savoir tout de même à peu près où ils sont.
Oui, parce que c'est vrai qu'on oublie de dire souvent qu'un livre, c'est aussi un bel objet, quoi, souvent.
Un livre, c'est un bel objet, et puis c'est généralement un chef-d'œuvre. Les livres que je garde dans ma bibliothèque, pour la plupart, sont des chefs-d'œuvre. J'ai éliminé les scories. Et j'ai besoin, de façon désordonnée, même dans ma tête, de temps à autre, de me balader dans cette bibliothèque, de sortir un texte, de m'y replonger. Je me rends compte à ce moment-là, m'y replongeant, que je pourrais le lire jusqu'à la fin. Quelquefois, je prends le temps, et puis à d'autres moments, le temps se fait rare.
En parlant de bel objet, là, vous avez des livres anciens, des Dumas illustrés grand format, La Dame de Montsoreau.
Oui, La Dame de Montsoreau, c'est une édition d'origine. Ça m'a été offert lorsque j'ai eu le prix Goncourt, encore lui. Donc c'est un livre qui est d'une valeur assez inestimable. Il ne m'a pas été dérobé, vous l'observerez, mais la vie est longue.
On est encore chez un amateur de Dumas, si je comprends bien.
Oui, je suis un peu comme un petit garçon. Si vous voulez. C'est vrai que le Comte de Monte Cristo, c'est une des plus grandes émotions romanesques que j'ai éprouvées adolescent. Et encore aujourd'hui, si je tombe dans le Comte de Monte Cristo, eh bien, j'y reste. Hein, c'est irrésistible.
Vous le relisez régulièrement ?
Non, pas régulièrement, mais je m'aperçois qu'à cette époque-là, les romanciers avaient une relation enfantine avec les textes qu'ils écrivaient. Ils voulaient absolument tenir en haleine le lecteur jusqu'à la fin, lui rendre impossible le fait de reposer l'ouvrage et d'en s'en détacher. Oui. C'est également vrai avec des gens comme Victor Hugo ou c'est vrai avec Dickens. Et moi-même, je vais essayer de revenir à cette veine-là, c'est-à-dire d'aimer tellement son lecteur qu'on ne veut pas qu'il se sépare du livre qu'il est en train de lire.
Un feuilleton, quoi, une série télé, finalement.
Mais c'était extraordinaire, bien entendu, le feuilleton, c'est ça. D'ailleurs, on voit bien, c'est un peu naïf, le feuilleton, parce qu'on voit bien qu'à la fin de chaque chapitre, eh bien, l'auteur crée un suspense artificiel pour que le lecteur ait envie d'y revenir, mais
ça marche.
Ça marche, et c'est de la littérature aussi, bien entendu.
Qu'est-ce que c'est, ce grand livre rouge, très ancien, sur un lutrin, là ?
Il n'est pas si ancien que ça, c'est un livre absolument superbe, ça peut sembler un peu austère, sur les manoirs des Côtes du Nord. C'est un livre qui a été écrit par mon père, Henri Kefelec, avec des illustrations superbes d'ailleurs, d'un dessinateur qui s'appelle Le Guinvec. Il dessine au crayon, mais lorsque vous regardez ces crayons, vous avez l'impression de voir des photos. Et ce qui m'a frappé dans ce texte, c'est la capacité qu'avaient les écrivains d'autrefois à traiter des sujets austères avec de la phrase gourmande, un vocabulaire parfaitement dédié au texte. Et je n'en reviens pas qu'on puisse avoir une telle connaissance et des manoirs et du vocabulaire que cela demande et des conditions dans lesquelles ils ont été construits après la Révolution dans cette région de Bretagne.
Votre père, Henri Kefelec, qui était écrivain, dont vous parlez souvent, y compris dans vos livres, surtout. Est-ce que vous avez gardé certains de ses livres
bibliothèque ? Oui, bien sûr. De sa bibliothèque ? J'ai tous les Chateaubriands de mon père, annotés par mon père, dans ce couloir. Les voici.
Ça, donc là, on est dans l'escalier, justement.
Non, avec une photo de mon père et de votre serviteur, que je trouve assez belle.
Ouais, très belle.
Et il y a les Voltaire, tous ces ouvrages de Voltaire proviennent de la bibliothèque de mon père. Ils sont également annotés par mon père, qui ne se gênait pas pour écrire au stylo Waterman sur ces très beaux ouvrages, d'ailleurs. Donc j'ai la chance d'avoir aussi des observations de mon père quant à l'écriture de Chateaubriand, quant à l'intelligence de Chateaubriand, parce qu'il ne se gêne pas pour porter un jugement sur celui qu'il considérait comme son compatriote.
Très belle photo, mais vous ne regardez pas dans la même direction.
C'est exactement ce que je me dis chaque fois que je regarde cette photo. C'est l'impression comme ça de deux personnes qui sont extrêmement proches, mais il n'y a pas de distanciation physique entre les deux, mais moralement, ils sont très loin l'un de l'autre quand on voit la manière dont les regards s'échappent chacun dans sa direction.
C'est incroyable à quel point ça ressemble à ce que vous dites de votre relation.
Oui, c'était à la fois une relation très belle et très distante, et voire très conflictuelle, ce qui ne m'a jamais empêché d'admirer mon père, de l'aimer comme je n'ai probablement aimé que ma mère. C'était un homme très intelligent, très impressionnant, grand écrivain, charmeur comme c'est pas possible, extrêmement drôle. Ça ne se voit pas sur cette photo, mais il faut dire que quand cette photo a été prise, il avait déjà beaucoup souffert.
Quelle a été sa réaction quand vous avez eu le Goncourt ? Je sais qu'il y a une histoire là-dessus.
Je pense que c'est l'un des pires moments de son existence. C'est-à-dire, il me vouait à tous les échecs. Mon père, il se désolait auprès de ses amis d'avoir un fils tel que moi. Et évidemment, moi, j'ai eu le Goncourt. Ils savaient à peine que j'étais écrivain à ce moment-là, parce que j'ai fait mon chemin d'écriture sans m'appuyer sur son influence, sans m'appuyer sur ses relations, sans le lui dire. Et il a découvert, patatras, que son fils a vu le prix Goncourt. Il a considéré que c'était finalement le pire affront qu'un fils pouvait faire à son père. Mon père n'avait pas eu le prix Goncourt. Et cet admirable, ce grand humaniste, ce grand universitaire, ami de Pompidou, de Julien Gracq et de tant d'autres, voyait brusquement ce vilain petit canard, lui donner l'impression qu'il avait cherché à le dépasser, ce qui n'était absolument pas le cas. Moi, j'ai voulu lui offrir ce prix Goncourt, comme je l'aurais offert à ma mère si elle avait été vivante, et il l'a finalement très mal pris.
Incroyable. Ce livre-là, il déborde de post-it, ça crée même presque un bouquet de couleurs au-dessus du livre. Il est très ancien, grand format. C'est aussi un livre de votre père ?
Non, c'est un livre sur la Bretagne, écrit par l'historien qui s'appelle Pitre. Et c'est un nom bizarrement bizarre pour un homme aussi sérieux et aussi documenté sur la Bretagne d'autrefois et sur la puissance bretonne à l'époque où la Bretagne était un royaume, parce qu'on ne le dit pas assez. C'est qu'à l'époque des ducs et de la duchessanne, la Bretagne était largement aussi puissante que la France. Il arrivait même que les armées bretonnes flanquent des dérouillés aux armées franques et l'ont traité avec les États du monde entier, de toute l'Europe en tout cas.
Il y a beaucoup de livres dans votre bureau ici sur la Bretagne et sur la mer. Là, il y a l'Atlas des fortunes de mer que j'ai lu et chroniqué. Il est sorti il y a 2 ou 3 ans et qui raconte plein d'histoires de la mer, comme vous l'avez fait souvent aussi dans vos livres. Et il y a notamment l'histoire de la Marie Céleste.
Ah, vous connaissez cette histoire. Oui, bien entendu. C'est drôle que vous parliez de la Marie Céleste, que j'y pense souvent. Mais oui, ça fait partie de ces vaisseaux dits fantômes que l'on découvre en pleine mer, dont on connaît un petit peu l'histoire, puisqu'on sait dans quelles conditions le navire part. Un couple qui se croit destiné à une vie plus heureuse. Et puis, lorsqu'on retrouve le bateau, dans un excellent état de conservation, les individus ont disparu et l'on ne saura jamais pourquoi la Marie Céleste a été abandonnée, pourquoi il n'y a plus personne à bord.
A priori, pas de mutinerie.
Non, on a toujours l'impression d'une vie qui se poursuit alors que les occupants ne sont plus là, mais qu'ils pourraient éventuellement réapparaître. C'est une des histoires les plus étranges, évidemment. Mais il y en a eu énormément.
Il n'y a jamais eu de nouvelles de l'équipage. Non. C'est un vrai mystère qui dure encore aujourd'hui.
Mais les mystères maritimes sont fréquents. Combien de bateaux ont été retrouvés, probablement victimes d'un virus, où les marins sont encore étendus sur leur couchette à l'état de squelette. On voit très bien qu'il y avait une vie comme ça qui se menait à bord, qui s'est interrompue pour une raison accidentelle dont on ignore la cause.
Il y a toute une étagère dédiée à Julien Gracq, et vous avez notamment 2 exemplaires du Rivage des Sirtes chez José Corti, l'éditeur historique de Julien Gracq, dont il faut couper les pages souvent, parce qu'elles ne sont pas toujours coupées.
Ah, le fameux massicotage des pages.
Quel est votre rapport à Julien Gracq ?
Julien Gracq était un... Mon père et Julien Gracq se sont connus à l'école normale supérieure, à l'époque où Julien Gracq s'appelait Louis Poirier. C'est d'ailleurs mon père, Henri Kefelec, qui a donné à Louis Poirier l'idée de s'appeler Julien Gracq.
Ah bon ?
Tout à fait, oui, parce que les frères Gracchus, qui sont des figures romaines extrêmement exemplaires, donc avaient beaucoup frappé mon père. Et Julien Gracq s'était rallié à cette idée pour choisir son nom de plume. Donc c'est assez logique qu'il y ait des Julien Gracq dans ma bibliothèque. La plupart sont dédicacés à ma mère, qui était une grande admiratrice de Julien Gracq. Moi aussi, d'ailleurs, je suis un grand admirateur de Julien Gracq, en tout cas de certains de ses titres, dans Le balcon en forêt.
En revanche, qui est le rivage plus connu.
Qui n'est pas le plus connu, mais qui est sans doute le meilleur et le plus naturel, alors que Le rivage des Sirtes, qui aurait pu avoir le prix Goncourt, à mon avis, n'est pas le...
Qu'il a refusé, mais en réalité,
il ne l'avait pas refusé. Dans sa tête, il ne l'avait pas refusé. Mais comme il avait peur de ne pas l'avoir, il préférait aller dire « Non, je ne le veux pas », plutôt que d'essuyer un refus que son orgueil n'aurait pas supporté. C'est lui qui m'a raconté ça, avec beaucoup de modestie, je dois dire, 40 ans plus tard, et j'ai trouvé ça absolument stupéfiant.
Ah, il a regretté, finalement ?
Mais oui, il avait envie de l'avoir, mais il avait peur de ne pas l'avoir.
Parce que ce qui s'est passé, c'est que c'est avant le résultat qu'il a dit « De toute façon, moi, je ne veux pas du Goncourt, ce n'est pas pour moi, ces prix-là, la littérature n'est pas une compétition, etc. »
Oui, il avait déjà écrit un pamphlet contre les mœurs des gens de lettres, la littérature à l'estomac, donc il avait le bon rôle, si vous voulez, en disant « Pas de prix littéraire pour moi, non, j'en veux pas », alors qu'intérieurement, il n'attendait qu'une chose, c'est ce couronnement.
Incroyable. On en apprend des choses. Oh, il y a des disquettes, là. Vous savez que ça n'existe plus depuis 1990, ça, Yann.
Alors, écoutez, les disquettes que vous voyez là, vous les voyez, je ne sais même pas ce qu'elles font là. Je pense qu'elles appartiennent à ma femme. Je ne sais même pas ce que c'est que ce type de, voilà, de support.
Mais vous écrivez sur papier, donc sur vos carnets, on l'a dit tout à l'heure, mais vous avez un ordinateur quand même sur le bureau. Qu'est-ce que vous en faites ?
Formidable, formidable. Ça, mais l'ordinateur et le cahier se complètent extrêmement bien, parce que je ne suis pas un homme complètement rétrograde. Lorsque des tapuscrits me reviennent après que la copie ait été reportée sur un support électronique, je corrige. J'ai la vision de mon texte propre sur un écran d'ordinateur. Et là, je peux corriger. Mais je continue à corriger à la main. C'est-à-dire, j'ai un cahier de brouillon là, devant l'ordinateur. Et je connais pratiquement mon texte par cœur. Et entre l'ordinateur et mon cahier, une sorte de dialogue qui s'est installé.
Ah oui, vous faites les deux en même temps. Et alors, vous avez quoi ? C'est un dictionnaire, ça ?
Oui, là,
qui est très, très entamé, juste à côté de votre bureau.
Je vous en prie. Une demande qui allait trop davantage.
Il a bien vécu. Hein.
Oui, il a bien vécu. Il a été maltraité, parce que c'est normal de maltraiter un dictionnaire quand on est un écrivain. On le prend, on le triture, on le repose, on le reprend.
Et vous cherchez quoi ? Une orthographe ou une idée ou un...
Je cherche l'origine du mot. Et ça, c'est l'un des premiers dictionnaires analogiques extraordinaires. D'ailleurs, je salue au passage mon ami Allaret, hélas disparu, qui était l'un des plus, peut-être le plus bel esprit français du 20e et du 21e lorsqu'il s'en est allé. Donc c'est lui l'auteur de ces fameux petits Robert. Et toutes ces descriptions de mots ont été faites par lui, ou en tout cas revues par lui et corrigées par lui. C'est un prodige d'intelligence humaine, c'est un défi d'ailleurs au cerveau humain, et je ne me lasse pas de passer du temps dans ces petits Robert qui sont d'immenses ouvrages.
Merci Yann Kefelec.
Merci beaucoup Nicolas Carreau. Non, c'était une joie.
Kenavo.
De retour en studio, et je rappelle le titre du nouveau livre de Yann Kefelec, La mer et au-delà, c'est chez Calman Lévy, c'est à lire. Dans un instant, plein d'autres livres, il est l'heure des libraires. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue. Il est l'heure de rendre visite à un libraire pour un conseil. Des conseils, nous partons à Vaucresson rejoindre Thibaut Raden. Bonjour Thibaut Raden, l'homme qui lit en marchant.
Bonjour Nicolas.
Spécial Japon aujourd'hui, c'est vos préférés.
Exactement, ouais. Vous savez mon amour de la littérature japonaise. Aujourd'hui, j'ai décidé une petite spéciale. Je commence avec Les astres jumeaux de Kenji Miyazawa. C'est chez Kambourakis Poche. Et ce sont des recueils de nouvelles, en fait. À peu près toutes aussi extraordinaires les unes que les autres, qui vous racontent... Alors, on est au Japon, n'oublions pas. Les cerfs peuvent parler, les étoiles sont des êtres humains. Enfin, voilà, y a tout un tas de choses comme ça, assez merveilleux. Mais c'est si bien écrit, c'est si fou, ça fait rêver. On est dans des temps où on a besoin de rêver, et ben, ça c'est parfait. Je disais à ma collègue, il y a une nouvelle, je vous jure, vous chantez en lisant.
C'est une... La collègue, c'est Anne Burzinski, on la connaît dans La Voix libre, je vous signale.
Et ben voilà, ben, je disais à Anne qu'il y a une nouvelle, c'est de la musique. Il a, avec des mots normaux, hein, vous, c'est hyper musical, vous dansez, vous chantez, c'est superbe.
Ensuite, le grand maître, le plus connu sans doute de tous les écrivains japonais, Haruki Murakami.
Exactement, ouais. Là c'est une réédition de La fin des temps. Chez 10-18, et c'est, je crois, un des moins connus de Murakami, pour le coup. Un des plus bizarres aussi, enfin, quoique, il se défend pas mal. La fin des temps, alors, c'est deux histoires qui se passent en parallèle. Les deux histoires sont assez compliquées en soi, et forcément, elles ont un sens. Mais sans trop en dire sur les deux histoires, je vous en parlais d'une. Une d'un homme qui a un rendez-vous avec un autre homme un peu spécial, qui, dans un immeuble, dans son bureau, a des fontaines. Enfin, c'est Murakami, vous ouvrez une porte, vous vous retrouvez dans un monde extraordinaire. Où, en fait, en étudiant les eaux, il a trouvé, on ne sait pas trop comment, la capacité de baisser le son des gens ou des choses. Et à partir de ce rendez-vous, à partir de ça, vous avez une histoire extraordinaire. Où, bah, peut-être que ça va être la fin des temps ou pas du tout, on verra bien. Peut-être que les deux histoires ont un rapport avec cette fin des temps, mais dans tous les cas... Vous êtes embarqué dans des trucs. Enfin, c'est Murakami, c'est génial.
C'est génial ce truc. C'est-à-dire, c'est comme si on avait une télécommande pour baisser le volume sonore des gens, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, la première personne qu'il croise, il a l'impression qu'elle est muette. C'est juste qu'en fait, le monsieur a oublié de lui remonter le son. Donc en fait, il ne l'entend pas, quoi. C'est très drôle.
Il l'a mis sur mute. La fin des temps, Haruki Murakami chez 10-18 en plus, que demande le peuple. Et alors ensuite, bon, on prend un peu le temps parce que vous avez un dictionnaire, là, un dictionnaire manga. En tout cas, c'est le format.
Non, c'est plus format Bible. C'est, ça, ça fait mieux quand même. Oui, en fait, c'est Planète de Makoto Yukimura et c'est l'intégrale. Il n'existe pas en version, enfin, en plusieurs tomes. Et oui, effectivement, quand on le prend, ça, là, je ne pourrais pas lire en marchant. C'est impossible. Mais par contre, il faut savoir que c'est, je crois, un des meilleurs mangas que j'ai lus. Il répond à des tas de questions auxquelles je peux me poser, en fait, en tant qu'être humain. Et il a cette capacité aussi de faire rêver. Moi, c'est ce que j'aime dans la littérature. Je pense que je l'ai assez dit. Là, on suit plusieurs personnes, mais un personnage principal dans les, en 2070, qui est astronaute. Mais un astronaute un peu particulier. C'est-à-dire qu'en fait, avec deux de ses collègues, ils sont éboueurs de l'espace. Les débris qui tournent autour de la Terre, comme c'est le cas aujourd'hui, sont...
Oh, il y a une cliente qui nous pique le bouquin. Non, regarde. je vous en prie.
Les débris, en fait, sont ramassés par ces gens-là et puis détruits ou mis dans une espèce de poubelle spatiale. Sauf que lui rêve d'avoir son propre vaisseau. Et on va suivre ça, on va suivre vraiment leur quotidien. Et c'est un quotidien qui se passe quand même dans bientôt 50 ans. Donc l'auteur, qui était très jeune quand il l'a fait, a dû inventer et comprendre des choses. Et c'est superbe parce que ça vous parle de choses qui existent vraiment, comme les maladies qui peuvent arriver dans l'espace. Il y a des passages d'une force émotionnelle, mais c'est très puissant. Le dessin est grandi pendant la lecture. C'est merveilleux, c'est un merveilleux manga.
C'est le futur qui regarde notre présent, comme toutes les bonnes histoires de science-fiction.
Oui, mais c'est totalement ça. Il y a vraiment des phrases. C'est d'ailleurs le seul manga que j'ai annoté, parce qu'il y a des phrases qui nous renvoient aujourd'hui à notre réalité, et c'est fou.
On a de quoi lire quand même, hein. C'est costaud. Combien ça coûte ?
Il coûte 35 euros. Mais c'est vraiment 35 euros de bonheur, par contre. Hein. Ça les vaut, quoi.
Ouais, et puis rapporté à la page, ça va, c'est rentable.
Ouais, bah oui, ça vous coûte rien, en fait.
Merci beaucoup, Thibaut.
Bah, merci, Nicolas.
Retour à Europe 1 et nous sommes rejoints dans un instant par ce grand enfant de Victor Dolande, son conseil littérature jeunesse. À tout de suite.
Il était une fois.
Et comme chaque semaine, on retrouve le conseil littérature jeunesse de Victor Dolande. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Pour démarrer cette nouvelle année, vous nous conseillez un roman pour ados intitulé « J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle » de Jo Witek.
Oui, je vous présente Effie, 14 ans donc. Tout commence bien pour elle, elle sort du collège. Les vacances scolaires devant elle, elle revient avec un très bon bulletin de notes, avec cette appréciation, un comportement moral exemplaire. Elle est fière, se sent libre, convaincue que le monde lui appartient. Et retourne chez ses parents, assise à l'arrière de la mobylette conduite par son oncle Blabla. Mais très vite, ses parents chéris ont changé de ton. Ils lui parlent comme si elle était devenue une femme. Un matin, sa mère dépose une longue robe bleue sur son lit, une tenue de femme, selon les mots de sa maman.
Aïe.
Et sa mère de continuer. Tu es nubile maintenant, Effie. Un mot que cette jeune adolescente ne comprend même pas.
Qu'est-ce qui se passe ensuite ?
Effie d'abord se renseigne. Que veut dire nubile ? Ah, d'accord, bonne à marier. Qu'en pense Ses copines essaient de la rassurer parce qu'Effie a toujours été protégée par sa maman. Sa maman s'est battue pour qu'elle fasse des études. Mais ça, c'était avant ce soir où elle rentre chez elle et deux étrangers l'attendent dans la cuisine. C'est son père qui fait les présentations. Effie comprend rapidement que ses parents vont la marier. Elle implore sa mère, mais rien n'y fait. En réponse, sa mère lui explique qu'elle est enceinte et que son père a des dettes. En somme, qu'il le faut.
Bah c'est joyeux votre bouquin.
Ah bah oui, c'est joyeux et bonne année surtout.
À partir de quel âge ? 14 ans ?
Je dirais, ouais, voilà, exactement. Qu'on peut le lire à partir de l'âge d'Effie, le personnage principal de ce livre, c'est-à-dire 14 ans. Effie est suffisamment instruite pour comprendre tout ce qu'il se trame. Elle avait des rêves, ses parents l'ont transformé en marchandise. C'est un très beau texte brut, 130 pages, qui vous plonge dans l'univers atroce de ces mariages forcés. Un univers qui n'est quand même pas une chimère dans seulement quelques pays du globe. Selon la dernière estimation de l'UNICEF, 12 millions de jeunes filles mineures sont unies à des hommes qu'elles ne connaissent parfois absolument pas.
Non, mais je disais ça parce que d'habitude, c'est des crocodiles rigolos, loups gentils et tout
et
ça.
Et des
mais
petites
c'est
souris très mignonnes.
Important aussi, vous avez bien raison, sûr. On rappelle le titre. J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle, de Jo Witek aux éditions Actes Sud Junior. Gaspard Koenig, vous êtes toujours avec nous. Est-ce que vous vous rappelez du premier roman que vous avez lu ? Pas forcément un livre jeunesse d'ailleurs.
Alors, en tout cas, je me rappelle du premier roman qui m'a donné envie de lire les autres romans du même auteur. Et qui m'a fait commencer une œuvre entière.
Jules Verne.
Non, mais alors j'ai jamais été porté du tout sur la science-fiction et les romans d'aventure, je vous le dis. Mais c'était Regain de Jean Giono, qui est l'histoire d'un village mort, où il ne reste plus qu'une ou deux personnes, si je me souviens bien. Et puis, petit à petit, parce que le pain revient, eh bien, la vie revient, et puis le village, l'amour revient, et le village peu à peu revit. Et du coup, j'ai lu les deux, Giono, et puis j'ai découvert ces deux périodes, et je lis toujours Giono. Et d'ailleurs, lors de cette cavalcade que vous mentionniez, eh bien, j'ai lu un livre de Giono que je n'avais jamais lu, qui sont ses voyages en Italie. Et encore une fois, j'ai trouvé ça formidable, comment à chaque fois, il part à partir d'un rien du tout, d'un détail, il fait des contes, des histoires, il se fiche complètement de la différence entre la réalité et la fiction. Et c'est sur un sujet beaucoup plus contemporain que dans ses autres livres, encore une merveille.
Bon conseil, et je rappelle le titre de votre roman, L'Enfer, aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup, Gaspard Koenig.
Merci.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses. Et merci à Boris Paczynski, bien entendu, l'homme aux doigts de fée. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre. Nicolas Carreau.